Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, bienvenue sur Bretagne 5. Michel Philippot, la plume est à vous. Eh bien, je vous retrouve ce soir dans La plume est à vous avec beaucoup de plaisir et je vous propose une nouvelle très originale qui, en ces temps de crise sanitaire aux conséquences, hélas trop souvent tragiques, ouvre, avec quelque humour, une porte sur l'espoir. En cette période de confinement, l'émission de ce dimanche a été enregistrée au coin de ma table de salon, comme il se doit désormais. Vous pardonnerez donc, chères auditrices et chers auditeurs, d'éventuelles imperfections. Les équipements dont je dispose à la maison n'étant évidemment en rien comparables à ceux de nos studios. Merci, merci infiniment à l'ami Frédéric Guyon qui réalise à distance cette émission avec tout le professionnalisme que nous lui connaissons. Et tout de suite, cette nouvelle au titre étrange, Corona à l'eau, écrite par Sigrid Morcantini, dont j'ai eu le plaisir de lire la semaine dernière déjà une première nouvelle intitulée Violette. Pour mémoire, Sigrid Morcantini est comédienne professionnelle depuis plus de 30 ans. Elle a beaucoup travaillé sur les scènes lyonnaises et a aussi participé en son temps au Festival d'Avignon. Précision enfin qui a son importance, la nouvelle de ce soir, Corona à l'eau, est une œuvre de pure fiction et les quelques éléments à teneur médicale qui y figurent ne sauraient bien sûr en aucune manière être considérés comme vérité scientifique. Marie Do est une charmante petite vieille dame, très délicate, du haut de son 1,55 m, corps svelte et délié pour ses 75 ans, visage de vieille petite fille, encadré de cheveux blancs courts et légèrement bouclés naturellement, et regard bleu pervenche dans lequel on se plonge avec joie. Marie Do a été mannequin en son jeune temps, mannequin visage uniquement, car beaucoup trop petite pour être mannequin corps. Outre son apparence physique très attirante, sa manière d'être est adorable. Très discrète, Marie Do a cependant une force de caractère puissante qui en fait quelqu'un d'attachant. Elle est également douée de pas mal d'intuition, ce qui lui a bien servi tout au long de sa vie, qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais Marie Do a su surmonter les épreuves. Son cher mari n'est plus de ce monde depuis une bonne vingtaine d'années. Les ponts ne sont pas coupés, mais très peu traversée par sa fille qui vit aux États-Unis, au fin fond du Nebraska, et qui s'est immergée dans une vie de bobo écolo. Elle a bien un petit-fils, oui, Ronald, qui lui vit à New York et avec qui elle entretient de bons rapports, mais il est très pris par son métier de chef d'orchestre. Mais bon, Marie Do s'est mise à l'Internet depuis 2 ans. Et depuis, ils échangent par webcam. Ah, Marie Do est quelqu'un qui sait se débrouiller malgré une toute petite retraite. Elle fréquente des associations, elle fait de la gymnastique douce régulièrement, elle peint, elle dessine d'abondance. Les journées passent sans même qu'elle s'en aperçoive. Mais sa vie, assez cadrée, va changer durant 3 semaines. Ah, Marido va faire une croisière. Oh, elle réalise là le rêve de sa vie. Tandis qu'elle attend patiemment au bas de l'escalier de l'embarcadère, elle se dit qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de chance et elle n'en revient pas de pouvoir s'offrir ce voyage. Oh, ce n'est pas avec ses revenus mensuels qu'elle aurait pu le faire. Oh non, Marido n'est pas très dépensière, mais même si elle avait cassé la tirelire de ses économies, le montant ne lui aurait jamais permis de s'embarquer pour ce grand tour qui correspond quasiment au trajet que faisait le Titanic par le passé. Il y a 8 mois, jamais Marido n'aurait imaginé que le destin allait lui jouer un si bon tour. Il y a 8 mois donc, Marido peinait encore à boucler ses fins de mois. Et puis il y a eu ce coronavirus, le confinement. Les difficultés de la vie courante, ne serait-ce que pour faire ses courses, le manque de voir des gens, ses connaissances associatives et ses rares amis, la peur. Tout le monde était devenu un peu méfiant, sur la réserve, envers les personnes âgées, plus propices à propager le virus selon les médias. Oui, ah, une période très difficile que celle de cette pandémie mondiale et drastique. Juste avant le confinement, Marido avait eu une entrevue avec son conseiller bancaire, Nicolas. Ah, Nicolas adore Marido. Elle lui rappelle sa chère maman et il apprécie son dynamisme punchy. Surtout, il a toujours été de très bons conseils pour ses maigres économies aussi. Quand il lui avait suggéré de placer une partie de son plan d'épargne sur un fonds monétaire en lien avec les nouvelles technologies de l'exploitation des réserves d'eau naturelle, Marido n'avait pas hésité. Ce placement lui avait tout de suite parlé. Et au lieu de ne placer qu'un tiers du petit pécule, elle lui avait demandé à Nicolas d'en placer la moitié, le reste demeurant bien à l'abri dans le fonds euro garanti. Elle se souvient très bien du rire de Nicolas et de la conclusion de leur échange. « Ah, vous m'étonnerez toujours, vous êtes sûr, Marido? On met la moitié sur Futura Water ?» Oh, même si le placement démarre vraiment très très bien depuis plus d'un an, avec un pourcentage de revenus plus qu'avantageux, il n'est pas garanti comme le fonds euro. Oui, Nicolas, oui, cette eau-là me parle. On plonge. Et Marido avait signé l'avenant du placement. Même pas 3 semaines après ce jour-là, la pandémie coronavirus avait commencé à faire rage et le confinement sévit pour tout le monde. Bien entendu, Marido avait vite oublié cette démarche bancaire face à tous les bouleversements de vie quotidienne imposés par l'épidémie foudroyante. Marido se souvient de la difficulté des savants, des chercheurs, à trouver un vaccin. Elle se souvient aussi de sa peur latente à être contaminée. Elle n'a rien oublié des débuts, collée à son poste de télévision ou chevillée à la radio, en quête de la moindre information annonçant un progrès dans cette lutte inégale contre l'ennemi invisible. Puis, petit à petit, et de plus en plus soumise, ce qui ne lui ressemblait pourtant pas, elle s'était bien rendue compte qu'elle, si battante, ne pouvait rien faire dans cette situation, sinon se protéger du mieux possible. Elle se souvient comment elles avaient néanmoins réussi, son amie Edwina et elle, à maintenir un maigre lien amical, social, se voyant non pas en visite l'une chez l'autre, comme elle le faisait depuis de si nombreuses années, mais sur un banc, à 2 mètres l'une de l'autre, chacune son masque sur le visage, et un tout petit moment pour ne pas dépasser les consignes imposées. Marido aime beaucoup Edwina, qui a un franc-parler, parfois digne d'un Chartier, mais toujours franc du collier. Elle se souvient du grand soulagement qu'elle avait éprouvé lorsque, 3 mois après le début de la pandémie, on l'avait testée et qu'elle avait appris qu'elle avait suffisamment d'anticorps pour ne pas être infectée. Oh, cette façon de vivre confinée chez soi avait duré 4 longs mois. Elle se souvient, et elle n'est pas prête d'oublier, le jour où elle avait appris, après la fin du confinement, et quand les chercheurs médicaux s'étaient penchés sur le comment et le pourquoi du corona, à grand renfort de statistiques, d'évaluations en tout genre, qu'en fait, ils ne cherchaient pas dans la bonne direction. C'était lors d'une retransmission télévisée du président de la République, suivie d'une allocution du professeur Tourneterre. Ils avaient très bien expliqué tous deux qu'on n'avait pas assez élargi le champ des recherches, pris dans le feu de l'action de découvrir un vaccin avant tout. Et finalement, après avoir trouvé le vaccin, on avait découvert que le corona était un virus qui déployait sa charge de gravité suivant la qualité de l'eau qu'ingéraient les personnes. Qui aurait pu s'imaginer cela? Marido s'était félicité de ne boire que de l'eau minérale épars. Même si elle avait sué tant et plus pour le transport des packs, économisant ainsi le coût de la livraison à domicile. Et oui, le coronavirus atteignait en priorité les personnes qui buvaient de l'eau du robinet, soit la majorité de la population. Non pas que l'eau des villes fût non potable, bien au contraire. Le traitement de l'eau nécessite des produits chimiques absolument non toxiques pour l'humain, mais qui contiennent des substances privilégiant la survie du virus corona. Incroyable. Le professeur Tourneterre avait expliqué que, dans les études faites, 96% des personnes sauvées, jeunes ou âgées, fragiles ou non, considérées comme à risque ou pas, n'avait bu que de l'eau minérale. Bien entendu, on allait modifier le traitement de l'eau courante en conséquence de la découverte. On pouvait faire confiance à de nouvelles technologies déjà en cours, même si insuffisamment vulgarisé, ce à quoi s'employaient les industries concernées. Marido s'était inquiété en pensant à son placement. Futura Water s'avérerait-il un bon ou un mauvais placement? Dès le lendemain, elle avait téléphoné à Nicolas. Et celui-ci, tout excité, l'avait immédiatement rassuré, lui annonçant que Futura Water faisait bien partie des groupes qui avaient investi dans les bonnes technologies en lien avec l'eau, et que leur action était en grande partie cautionnée par le gouvernement et en fait par le monde entier. Preuve en main, Marino, j'ai sous les yeux les résultats. Le taux de rapport était à 9% quand vous avez souscrit. Il avait chuté à 4% durant la période de confinement où tout était bloqué. Et en 15 jours, entendez-vous, il est monté à 23%. Et avec l'allocution du président et du professeur Tourneterre, vous allez voir, ça va encore monter. Croyez-moi, Marido, vous allez récupérer, mais alors, un bénéfice éclatant. Marido avait demandé à combien pouvait se monter ce fameux bénéfice. Nicolas lui avait répondu qu'à la louche, ce serait près de 15 000 euros et que selon lui, il valait mieux réinvestir une partie dans du sûr et du conventionnel, car c'est ainsi que fonctionnent les placements. Mais à la suite de cette conversation téléphonique, Marido avait eu une idée. Cet argent, il tombait du ciel et elle ne s'y attendait pas. Elle allait le dépenser. Elle allait rendre visite à son petit-fils à New York. Il lui avait proposé maintes et maintes fois de venir et même de lui payer le billet. Mais Marido, bien trop fière, n'avait jamais dit oui. Eh bien voilà, l'occasion lui était apportée sur un plateau d'argent. Le confinement terminé et les voyages autorisés, Marido n'avait pas traîné pour organiser son voyage croisière en première classe, s'il vous plaît. Tandis que Marido se remémore ses 8 derniers mois écoulés, le temps passe et enfin, la file d'attente s'ébranle pour monter l'escalier menant à l'entrée du paquebot. Sa Delcée toute neuve pèse un âne mort. Elle peine à la monter quand un homme saisit la poignée avec un « Vous permettez, chère madame, ce bagage est bien trop lourd pour une jolie femme. » Marido rosit de confusion, mais laisse faire ce monsieur très bien de sa personne, si élégant et tellement distingué. Oh, elle l'a remarqué dans la file. Il la regardait avec insistance. Et Marido s'est bien rendu compte qu'elle lui avait, comme on dit, tapé dans l'œil. Elle a une pensée pour son amie Edwina qui lui fait souvent remarquer, justement, qu'elle tape dans l'œil de pas mal de messieurs sans forcément s'en apercevoir. Dans le cas présent, toujours Dixit Edwina, Marido n'aura pas eu de peau de saucisson devant les yeux. Et pour tout dire, eh bien, elle en est ravie. L'escalier étroit, gravi, le monsieur rend sa grosse Delcée à Marido et se présente. Georges Albert Duclos. Avec un charmant sourire, il ajoute qu'il sera très honoré, si elle le permet, de lui tenir compagnie durant la croisière. À l'occasion des repas, par exemple, si tant est qu'elle le souhaite, bien entendu. Marido, à son tour, se présente, lui jette un petit « Oh, je n'ai rien contre la compagnie, monsieur. Nous pourrons effectivement nous retrouver au dîner. » Et chacun part à la recherche de sa cabine. Ils s'installent, toujours chacun de leur côté, visitent sommairement le bateau sans se rencontrer, flânent sur le pont, et l'heure du dîner arrive. Marido, resplendissante, pénètre dans la salle à manger de taille impressionnante, un peu intimidée. Cependant que Georges Albert guettait la porte d'entrée, il lui adresse un signe courtois et bienveillant dès qu'il l'aperçoit, l'invitant à le rejoindre à sa table. Georges Albert, très vieille France, déplace sa chaise. Et les voici installés face à face. Passé le premier moment des politesses échangées sur l'installation en cabine, le ressenti de passager, eh bien, la conversation devient plus personnelle. Ainsi, vous allez rendre visite à votre petit-fils à New York. Oh, quelle chance il a d'avoir une grand-mère si gentille qui traverse les océans pour lui. Est-il indiscret de vous demander quelle est sa profession ? Oh, pas du tout. Il est chef d'orchestre. Oh, vous me laissez pantois, chère Marie-Dominique. Enfin, quelqu'un qui l'appelle par son prénom sans le raccourcir. Figurez-vous que c'est également mon métier, même si je ne dirige plus depuis longtemps, sauf cas exceptionnel. Ah oui, en effet, quel hasard! Puis-je à mon tour vous demander, cher Georges Albert, si vous vivez en France ou aux États-Unis? Oh, je vis principalement à New York, dans Greenwich Village. Mais j'aime aussi faire des séjours prolongés en France, à Paris, en Provence, en Bretagne. Greenwich Village, oh, comme c'est curieux, c'est aussi la cabine de mon petit-fils. Lui, c'est à Perry Street qu'il vit, oh, dans un beau loft. Comment ? Non. Serait-il indiscret de vous demander son adresse ? Oh, pas du tout. C'est au 1227 Perry Street. C'est loin de votre propre domicile ? Oh, alors Marie-Dominique, vous n'allez pas me croire. J'habite au 1228 Perry Street. Et vous n'allez tout de même pas me dire que votre petit-fils, c'est le très bon chef Ronald Collins. Mais si, vous le connaissez ? Mais parfaitement bien, Marie-Dominique. J'ai été son directeur pratique lors de sa dernière année à l'école de musique franco-américaine. Et tenez-vous bien, pardonnez-moi, Marie-Dominique, la surprise me rend familier. Son loft, savez-vous, c'est moi qui le lui ai fait obtenir. Le précédent propriétaire était un soliste, alto de mes amis, qui s'est expatrié au Canada. Oh, j'en reste sans voix. J'en reste absolument sans voix. Tout de même, le hasard. Les yeux de Marido sont tels deux lacs de montagne sous un soleil de printemps. Et Georges Albert est déjà en train de s'y noyer. Sa main se pose délicatement sur la petite patte d'oiseau de Marido sans qu'elle la retire. Une foule de questions se bouscule dans l'esprit de la vieille dame. La vie serait-elle en train de lui faire un cadeau de dernière heure? Après plusieurs années de pain sec, va-t-elle enfin avoir le droit de goûter un dessert délicieux? Peut-on tomber amoureux à 75 ans? la fabuleuse roue de la fortune a-t-elle décidé de s'arrêter sur le numéro gagnant Marido. Mais Marido n'a pas envie de répondre à toutes ces questions. Elle a envie de tenter sa chance. Et presque malgré elle, dans un élan plein de ferveur, une petite phrase passe ses lèvres. « Oh, je ne crois pas au hasard, Georges Albert. »
Ça n'a pas d'âge, 15 ans, 40 ou davantage, tant que le cœur bat dans sa cage, on a l'âge d'aimer. C'est l'âge des années frivoles, où soudain la raison s'affole, lorsque le corps prend la parole, on a l'âge d'aimer. Si ta couleur n'est pas la mienne, si mon âge est distant du tien, on s'aimera quoi qu'il advienne. Nous avons l'âge de nos veines, et l'amour est notre destin. Qui sait où commence ou s'arrête l'âge puéril, l'âge un peu bête, gravé dans nos cœurs et nos têtes, l'âge d'aimer, l'âge d'aimer. Lorsqu'oubliant ses différences, le corps veut vivre ses violences, la peau souffrant ses impatiences, on a l'âge d'aimer. L'âge où le désir nous rive, quand la raison perd sa dérive, au cri d'un qui m'aime me suive, on a l'âge d'aimer. Vois notre sol devient nuage, on a l'enfance au fond des yeux, quand on aime, on a le même âge. Le cœur fomente des orages, et l'amour joue avec le feu. Quinze ans, quarante ou davantage, de voyage en vagabondage, quand je devrais tournant la page, émigrer de l'âge d'aimer. Je n'aurai plus aucun courage, je serai plus vieux que le temps. Aussi c'est désespérément qu'avec toi je m'agrippe à l'âge, mon amour, à l'âge d'aimer.
L'âge d'aimer, ça n'a pas d'âge. 15 ans, 40 ou davantage, tant que le cœur bat dans sa cage, on a l'âge d'aimer. C'est bien ce message plein d'espoir qui fait confiance à ce sentiment qui a traversé les âges et les générations que nous envoie conjointement la chanson d'Aznavour et la nouvelle que nous venons d'entendre sous la plume de Sigrid Morgantini. Nul n'est prophète et bien loin de moi la prétention de prédire quoi que ce soit au regard de notre avenir. Pourtant, il n'est pas interdit d'espérer et il n'est pas interdit non plus de rêver. Et gardons, où que nous soyons, en ces temps où vacillent parfois nos certitudes, notre confiance en ce monde, eh bien gardons ces repères intangibles qu'incarnent la nécessité du vivre ensemble et le besoin d'aimer l'autre. Et c'est aux accents d'Anton Dvorak et de la Symphonie du Nouveau Monde que nous avons accompagné Marie-Dominique et Georges Albert en ce voyage plein d'espérance vers l'amour inattendu. La plume est à vous, se referme pour ce soir. Merci encore à Frédéric Guyon qui a superbement réalisé cette émission dans les conditions que vous connaissez. Passez une belle semaine à l'écoute de Bretagne 5. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur cette même antenne. Une seule devise, si vous le pouvez, restez chez vous. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.